Allez, la question dans la réponse dans 3 minutes.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, nous parle du numéro 1 de l'antitache en pharmacie.
Le sérum VinoPerfect corrige toutes les taches liées au soleil, aux cicatrices d'acné, aux masques de grossesse, à l'âge. C'est prouvé. La coloration des taches diminue de 63% des 1 flacon. Et sur tous les types de peau, des plus clairs aux plus foncés, même les peaux sensibles.
En ce moment, pour l'achat d'un sérum VinoPerfect Caudalie, la crème solaire SPF 50+, offerte, dans la limite des stocks disponibles. Source Gers Data à fin décembre 2023. Plus d'informations sur caudalie.com.
France Inter,
première radio de France.
Merci de nous écouter, il est 20h. Magali Oumou pour l'info. Bonsoir Magali.
Bonsoir à tous. Le Hamas approuve ce soir un cessez-le-feu à Gaza. Le groupe palestinien dit accepter la proposition présentée par les médiateurs égyptiens et qataris. Une information à prendre avec prudence, surtout qu'un haut responsable israélien affirme que cette proposition n'est pas acceptable. Malgré tout, cette annonce a été accueillie avec des scènes de joie et des tirs en l'air à Rafah, cette ville du sud de l'enclave palestinienne qu'Israël menace d'une offensive. Des milliers de personnes étaient cet après-midi en train d'évacuer. Pour éviter une nouvelle guerre froide, Xi Jinping appelle la France à travailler avec Pékin. Le président chinois à Paris aujourd'hui en visite d'État. Il demande à ne pas salir la Chine sur le dossier ukrainien. La Chine qui n'a jamais condamné l'invasion russe. Face à lui, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui compte sur Pékin pour jouer un rôle dans la désescalade, alors que la Russie, Sylvain Tronchet, a une nouvelle fois menacée aujourd'hui d'utiliser l'arme nucléaire.
Le Kremlin a clairement haussé le ton aujourd'hui en annonçant tout d'abord des exercices nucléaires tout proche de la frontière ukrainienne dans les jours à venir, exercices qui sont une réponse aux propos jugés provocateurs de certains responsables occidentaux, a précisé Moscou. Emmanuel Macron, qui a réitéré qu'il était envisageable d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, est clairement visé, a précisé le porte-parole de Vladimir Poutine. Moscou a également convoqué les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne. Pour le français Pierre Lévy, c'est la troisième convocation cette année. On ne sait pas exactement ce qui lui a été dit. En revanche, son homologue britannique s'est vu reprocher les récentes déclarations de son ministre David Cameron, qui a brisé un dogme en estimant que l'Ukraine pouvait légitimement utiliser des armes britanniques pour frapper le territoire russe. Une déclaration qui a provoqué la fureur de Moscou, qui menace à son tour de frapper des installations britanniques en Ukraine et au-delà, sans plus de précision. Le tout alors que la Russie entre dans une séquence importante avec l'investiture de Vladimir Poutine demain et son discours sur la place Rouge jeudi à l'occasion des célébrations du 9 mai.
Le Pentagone dénonce la rhétorique irresponsable de Moscou. Bernard Pivot, le point final d'une vie faite de littérature et de télévision. L'amoureux des mots est mort aujourd'hui à 89 ans. L'animateur d'Apostrophe et de Bouillon de Culture a aussi présidé l'Académie Goncourt, connue aussi pour ses dictées redoutables. Emmanuel Macron salue un passeur populaire et exigeant, un militant de la lecture pour tous. Salue de son côté la ministre de la Culture, Rachida Dati. Le bonheur de le regarder à la télévision, il nous rendait intelligent, réagit pour sa part Jean-Pierre Foucault. L'origine du monde, taguée au centre Pompidou à Metz, l'œuvre de Gustave Courbet prise pour cible par des féministes. Les mots MeToo étaient inscrits sur la vitre qui protège le tableau représentant un sexe de femme. Deux personnes ont été interpellées. L'Arc de Triomphe, le Colisée à Rome ou encore la Grande Place à Bruxelles, dans plus de 60 villes à travers l'Europe. Des monuments emblématiques vont s'illuminer ce jeudi à l'occasion de la Journée de l'Europe. Des slogans seront aussi projetés pour inciter les Européens à aller voter le mois prochain. Le rideau va bientôt se lever sur la 35e nuit des Molières. C'est ce soir, dans une heure sur France 2. Ça se passe aux Folies Bergères à Paris. Les spectacles Courgette et le Cercle des Poètes disparus avec 7 et 6 nominations font office de favoris.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
20h05, vous êtes sur France Inter à suivre Grand Canal. C'est avec vous Eva Bester. Bonsoir Eva.
Bonsoir Magali. Aujourd'hui, je reçois l'écrivain Victor Pouchet pour son roman-poème L'Option légère chez Gallimard. On parlera d'amour, de marabout, de transcendance et de retard.
À tout à l'heure. Tout de suite, le temps de se brosser les dents. Voici Les Petits Bateaux avec Camille Cronier. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, on va se poser et réfléchir.
Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 7 ans, je voudrais savoir comment les gens deviennent racistes. Merci de m'en répondre.
Et merci à toi Mathéo, comment les gens deviennent racistes? C'est-à-dire, je précise, les enfants pensaient qu'il y a des races entre les humains en raison de la couleur de peau et que certaines sont meilleures ou moins bien que d'autres. C'est résumé. Hein. Je suis avec Adeline Azan, magistrate et présidente de l'UNICEF France qui défend partout le droit des enfants. Alors, est-ce que vous avez une réponse à donner à Mathéo?
Une réponse non, mais enfin quelques idées sur la question. Et je trouve que la question de Mathéo est vraiment fondamentale, justement, pour bien vivre en société. Alors moi, je dirais personne ne naît raciste. Je pense qu'on le devient. On le devient comment ? Ben, quand on est un enfant, par exemple, on n'est pas raciste. Si des enfants peuvent avoir des propos racistes, c'est parce qu'ils reproduisent ce qu'ils ont pu entendre, soit dans la famille, soit ailleurs. Mais ils n'ont pas instinctivement cette démarche d'être raciste. Alors, comment on le devient ? Parce que, justement, on n'est pas habitué à supporter des personnes qui sont différentes de nous, et surtout parce qu'on ne réalise pas que, loin d'être une difficulté, vivre avec des personnes qui sont différentes de nous, eh bien, c'est une richesse. Ça n'est pas un handicap, c'est une richesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, en France, être raciste, et par exemple, prononcer des propos racistes, c'est un délit. On n'a pas le droit de le faire.
C'est sanctionné par la loi.
Et que une discrimination raciste, c'est sanctionné par la loi. Je vais t'expliquer. Si quelqu'un candidate à un emploi, si cette personne est de couleur, disons qu'elle est noire, si l'employeur ne le recrute pas à cause de ça, eh bien, c'est une discrimination raciste, elle sera sanctionnée par la loi.
Et donc, Mathéo qui dit comment les gens deviennent racistes, donc vous disiez ça peut être aussi quand on est petit par reproduction, est-ce que quand on est adulte, on peut devenir raciste? Ça c'est pourquoi? Comment on explique ça, le fait qu'on n'aime pas les autres qui sont différents de nous?
Parce qu'on n'est pas habitué, je pense, parce que ces personnes-là ne sont pas habituées. Parce que moi, je reste convaincue que, par exemple, quelqu'un qui a été habitué à vivre avec des gens complètement différents, eh bien, il ne deviendra pas raciste. Puis alors, il y a le racisme par rapport à l'ethnie, à l'origine, mais il y a d'autres formes, ça s'appelle pas racisme, mais c'est le même principe, qui est ne pas aimer les gens d'une autre religion, par exemple l'antisémitisme, l'islamophobie, ne pas aimer les gens qui ont une autre orientation sexuelle que la sienne, ça s'appelle l'homophobie. En fait, tout ça, on peut l'englober, c'est un petit peu le même mécanisme, c'est ne pas aimer les gens qui sont pas comme nous. Et ça, il faut combattre ça par tous les moyens et il faut arriver à faire comprendre que justement, coexister dans une société avec des gens qui ne sont pas comme nous, c'est une richesse. Et je ne sais pas si Mathéo sera d'accord avec moi, mais si Mathéo, il était uniquement avec des petits garçons qui lui ressemblent et qui sont quasiment copie conforme de lui, est-ce qu'il s'ennuierait pas?
Eh ben, tu nous diras Mathéo, mais j'ai ma petite idée. Salut les matelots!
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et tout de suite, place à vous Eva Bester, bonsoir, c'est Grand Canal.
Bonsoir Camille, Victor Pouchet est en studio, coiffons-nous d'un petit chapeau, je maîtrise les octosyllabes mais pas encore la poésie, générique. Professeur professeur, agrégé de lettres, écrivain et poète, Victor Pouchet est aussi l'un des conseillers artistiques de la Maison de la Poésie à Paris. Auteur de plusieurs livres pour enfants, des romans « Pourquoi les oiseaux meurent » et « Autoportrait en chevreuil » et du roman-poème « La grande aventure » préfacé par Hervé Le Tellier, il vient de faire paraître chez Gallimard un objet pesant 284 grammes, un nouveau roman-poème intitulé « L'option légère ». Dedans 111 poèmes en hexamètre et en octosyllabes, narrant l'ambition romantique et transcendantale d'un trentenaire voulant retrouver la femme qu'il aime, mettre en ordre le monde et composer le poème définitif. Une histoire d'amour, d'inquiétude et de joie entre la Corse et Paris. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Lester.
Une bonne interview, c'est celle à la fois qui informe, toujours penser au public, le public, au terme d'une interview, s'il n'a rien appris, s'il n'a pas été ému, s'il n'a pas été informé de quelque chose, ça sert à rien. Alors là, vraiment, ça sert à rien. Donc, et puis, une bonne interview littéraire, c'est aussi une interview qui incite le téléspectateur, en tout cas pour la télévision, à aller plus loin et donc à se renseigner et acheter les livres. Et il n'y a pas de problème, si vous ne travaillez pas, si vous ne lisez pas les livres du début à la fin, y compris les notes de bas de page, vous ne pouvez pas faire une très bonne émission.
Bonsoir Victor Pouchet.
Bonsoir Eva Bester.
Bernard Pivot est mort aujourd'hui, grande figure du monde culturel ayant reçu presque tous les grands écrivains dans ses émissions mythiques comme Apostrophe ou Bouillon de Culture. Qu'est-ce que cet homme et son parcours vous évoquent à vous, Victor Pouchet, qui faites partie du monde littéraire ?
Moi, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Bernard Pivot quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'allais regarder sur le site de l'INA et je découvrais ces plateaux avec des écrivains que j'admirais, Nabokov, Blondin. Je me souviens aussi d'une émission avec Bernard Franck. Et je me souviens d'une collection à la fois de vestes en tweed, de chevelures étranges et aussi une parole très libre, très naturelle. Il y avait de l'intelligence qui circulait et je me souviens qu'il y avait chez Pivot une forme d'espièglerie, un truc un peu, il allait agacer l'écrivain. J'aimais bien ça, j'ai l'impression qu'on accédait avec lui à un auteur vivant. Et je crois que à ce moment-là, j'écrivais, je rêvais d'être publié. Peut-être que je rêvais aussi d'être invité sur le plateau de Pivot. Mais je suis très content aussi d'être invité sur le plateau d'Eva Bester.
Ah bah, c'est gentil. Et j'ai oublié de donner la source de l'archive qu'on vient d'entendre. C'était Bernard Pivot au micro de Vincent Josse sur la chaîne en 2010. Et nous ferons une émission spéciale Grand Canal ce mercredi. Car demain, il y a un concert retransmis en direct sur la chaîne de Zao de Sagazan. Alors là, évidemment, vous êtes vivant. Et c'est à vous que je vais m'intéresser. Victor Pouchet, à quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai le plus pensé à ma grand-mère Maddy, à la Corse et au fromage de chèvre.
À votre grand-mère vous a dit ?
Ma grand-mère Maddy, c'est son prénom.
Ah oui, je pensais que c'était comme Jacques a dit, mais avec
non,
une
non,
grand-mère.
Non, non, c'est le prénom de ma grand-mère. Et en fait, cet après-midi, je suis passé à l'école des loisirs où j'ai découvert un prochain livre pour enfants qui va apparaître dans quelques semaines et qui se passe en Corse. C'est l'histoire d'un agent secret qui tente de déjouer la firme qui fabrique un missile nucléaire à base de fromage de chèvre. Et donc voilà, tout ça m'a amené à repenser à la Corse, à ma grand-mère que je vais voir dans quelques semaines en Corse et que j'adore et qui m'écoute peut-être. Voilà.
Donc vous êtes réellement comme le héros de votre roman-poème entre la Corse et Paris ?
J'y vais le plus possible et un lieu qui est très cher à mon cœur.
Victor Pouchet, vous avez eu dans votre œuvre, vous avez fait un autoportrait bestiaire en vous racontant à travers des histoires d'animaux avec Pourquoi les oiseaux meurent et Autoportrait en chevreuil dans lequel on se plonge dans l'âme d'Elias, raillé parce qu'il est le fils d'un magnétiseur considéré comme fou et qui a décrété après une séance d'hypnose chamanique que l'animal totémique de son fils était le chevreuil. Alors vous, maintenant que vous êtes là, rétablissons la vérité, quel animal êtes-vous ? Véritablement.
Je me sens véritablement chevreuil, même si je ne suis pas ce personnage Elias, mais le chevreuil, dès que j'en vois, j'ai l'impression vraiment que de voir une sorte de double.
Vous en voyez souvent ?
Énormément. Ouais. Dans le train, régulièrement, quand je prends le train, il y a des chevreuils qui apparaissent. Je pense que j'ai un lien secret avec cet animal.
Ah oui ? Et moi, je vois des vaches et des moutons.
Il faut être très attentif ou très inattentif. Et quand on est inattentif, on a le regard dans le vague comme ça. Le chevreuil s'offre à nous comme une sorte de cadeau de la vie.
Ah oui ? Est-ce que c'est gracieux un chevreuil ?
C'est la grâce incarnée. Il y a une forme de capacité à sauter, à fuir, à résister au regard aussi qui le rend d'autant plus précieux.
Vous vous identifiez ?
J'aimerais bien être capable de sauter des haies et de traverser des champs comme le chevreuil, mais je marche avec mes pieds d'homme.
vous le faites autrement de sauter des haies. Vous dites qu'avant votre premier roman, vous n'étiez jamais allé au bout de quelque chose.
J'avais beaucoup abandonné des choses. Je commençais des tas de romans, des tas de textes, et j'avais un truc un peu velléitaire. Et donc j'avais abandonné aussi une thèse, j'avais abandonné plein d'histoires aussi, des histoires d'amour. Et le roman Pourquoi les hommes meurent était la première chose que j'ai fini, j'ai l'impression. Ouais, j'avais sans doute fini d'autres choses que j'ai oubliées, mais la chose importante au bout de laquelle je suis allé.
Vous aviez aussi abandonné des histoires d'amour, donc vous êtes un peu comme le chevreuil qui fuit.
Ouais, je pense qu'il y a une fuite, mais on est tous un peu dans cet état de fuite, je pense. Enfin, on trouve des façons d'être présent et de s'absenter comme des chevreuils.
Vous avez collecté des informations sur différents animaux et bactéries jusqu'à ce que vous tombiez sur l'information qui a déclenché l'écriture du premier roman, les chutes d'oiseaux morts dans le Colorado, en Suède et sur l'île de la Réunion. Pourquoi êtes-vous si fasciné par les animaux ?
Ben, je sais pas tellement. En fait, je tombe sur des histoires d'animaux, et les animaux sont à la fois évidemment des êtres extrêmement loin de nous, mais dans cette distance et dans cet exotisme, j'ai l'impression qu'on peut s'y retrouver assez fortement. Et j'ai trouvé dans cette figure des pluies d'animaux et des pluies d'oiseaux en particulier quelque chose qui m'intriguait très fortement. Je savais pas pourquoi j'étais intrigué. Pendant des mois, je n'ai lu que des choses sur les pluies d'animaux et sur les animaux morts. Et j'ai écrit ce livre pour savoir pourquoi ça m'intriguait. Et donc, je ne sais pas encore très bien, mais je pense qu'il y a quelque chose qui résiste à la compréhension dans l'animal et qui a une forme de puissance. Et je pense toujours au fait que dès la préhistoire déjà, on peignait des animaux sur les parois des grottes, et que sans doute, il y avait déjà une fascination pour ces figures animales et donc des façons de se projeter en eux, qui sont les figures les plus lointaines.
On écoute justement un morceau qui s'inscrit dans la thématique.
Je te donne rendez-vous.
Éloi, comme un animal.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Victor Pouchet, vous publiez le roman-poème « L'option légère » chez Gallimard en vers libre, non rimé donc, mais rythmé en hexamètre et en octosyllabe. Déjà, et vous pensez la prose comme des chansons. Faut que ça sonne, faut que ce soit musical.
J'ai en permanence des chansons dans la tête. Et des chansons et des poèmes, et les choses se mélangent. Il y a à la fois Enrico Macias et François Villon et... En bande organisée, ça fait
en
un
même
truc...
Temps.
Bah, pas en même temps, mais qui peuvent se bousculer. Donc en effet, c'est un karaoké un peu chaotique. Et aussi des propres phrases nouvelles, enfin des mots à moi. Et les choses s'organisent, et souvent ça s'organise en effet en rythme.
Et les mots à vous, par exemple, aujourd'hui, c'était quoi?
Le mot d'aujourd'hui, extrême onguent.
Extrême onguent?
Je sais pas pourquoi, mais il y avait ces deux mots, et j'ai beaucoup répété extrême onguent.
Comme extrême onction, non?
Ouais, peut-être, je sais pas très bien. Et donc j'ai ces mots-là, puis j'ai des émotions, et je me dis que ces mots-là, je vais les ranger, et c'est pour ça que le poème arrive, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de faire quelque chose de ce chaos qui est à la fois dans ma tête et autour de moi. Et le poème rythmé, comme une chanson, est une façon d'organiser tout ça, de ranger un peu le chaos.
Ça, ranger, c'est un terme qui va revenir dans notre entretien, on va le voir. Vous dites, Victor Pouchet, être un peu fâché par la façon dont on a enfermé la poésie dans un truc réservé à une élite de lecteurs, je vous cite, et vous évoquez dans ce livre l'époque des poètes très sûrs d'eux qui se croyaient prophètes. Vous citez Ronsard et Hugo, dont l'exaltation vous transporte, mais vous ponctuez, on n'oserait plus écrire ça aujourd'hui, et j'aime cette forme de ridicule assumé. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pensez-vous qu'on se prenait plus au sérieux avant ?
Ah non, je pense que le sérieux est encore très très puissant aujourd'hui. Et il suffit de regarder un peu le monde culturel et le monde politique, enfin tout le monde autour de nous. J'ai l'impression souvent, moi, quand j'écoute des gens qui ont des cravates et des cravates mentales et que la vie est prise quand même très, la vie et la littérature est prise très au sérieux. Et que, en fait, c'est un exercice pour tous de réussir à éviter ce sérieux, à s'échapper, à ne pas se prendre pour quelqu'un qui a une haute parole, même si ce que je disais aussi, c'est que j'aime bien aussi que les poètes s'autorisent le lyrisme, la parole puissante, la déclaration et même la grandiloquence ridicule. Il y a quelque chose de beau lorsqu'on se met à parler un peu plus haut que la parole habituelle et la conversation courante.
Mais ne pensez-vous pas que l'époque est devenue très cynique et qu'on ne s'autorise plus la grandiloquence, que tout grand sentiment est forcément un peu vu comme grotesque aujourd'hui ?
Peut-être qu'en effet, il y a une forme de peur. D'ailleurs, c'est très souvent, on dit, c'est bien parce qu'il n'y a pas de pathos. Et donc, l'absence de pathos est devenue une sorte de qualité. Alors que, on est content de se plonger dans le pathétique, mais aussi dans l'exaltation joyeuse et qu'il faut s'autoriser ça. Et je pense qu'en fait, il y a quand même pas mal d'endroits où on s'autorise ça, et au cinéma et en littérature. Je crois pas que le cynisme ait gagné. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il ait complètement gagné.
Votre grande affection se porte vers vos semblables, ceux que vous appelez les hésitants, du Bellay et Verlaine.
Ouais, j'aime bien ces poètes qui, justement, qui sont toujours dans une mise en scène. Alors, je sais pas tout à fait si c'est vrai, mais de leurs doutes. Est-ce que ma chanson est une bonne chanson? Je regrette d'être parti à Rome, alors qu'en fait j'étais très bien à Paris et ma vie allait être superbe. Ça, c'est du Bellay. Et la chanson qui vacille un peu, quoi, qui est sur la crête, qui hésite. Et je me retrouve à la fois dans leur façon d'écrire de la poésie et surtout, enfin, dans la façon de transformer leurs émotions en poèmes.
Pour vous, la poésie, c'est le lyrisme et le bégaiement. On peut mettre des chips dans la poésie.
Je pense que la poésie, c'est vraiment un grand écart dans lequel qui peut accueillir tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc, il y a les grands sentiments, le deuil qui arrive, un amour qui recommence, mais il y a aussi, en effet, le paquet de chips, le mec qui vient relever le compteur électrique. Et en fait, s'il n'y a pas le paquet de chips, à mon avis, la poésie meurt. Enfin, la poésie se nourrit et de chips et d'existence. Et donc, moi, je porte. Pour moi, la poésie est la chose la plus importante au monde, et c'est une façon de noter cette importance que d'accueillir tout ce qui m'arrive, la vaisselle dans l'évier, les chips, l'inquiétude totale et la joie immense.
Le mot chips n'aura jamais été autant prononcé dans Grand Canal et j'en suis ravie. Victor Pouchet, vous avouez une obsession pour la légèreté, car vous dites peser 8000 tonnes. C'est-à-dire, vous êtes dans la gravité ?
Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Option Légère, parce que j'ai l'impression qu'elle m'échappe en permanence et que le...
La légèreté ?
Ouais, que la légèreté est quelque chose qui est toujours à conquérir et que le chemin est entre cette gravité, l'impression que le monde est plein d'obstacles et se refuse à nous, et la capacité à se décaler un peu et à trouver cette option légère que je ne pourrais pas tellement définir, si ce n'est regarder différemment ce qui nous arrive, peut-être aller du côté d'une forme d'enfance qui nous autorise l'émerveillement, le jeu, un regard plus tranquille.
Vous y arrivez parfois ?
Exceptionnellement, non, je pense que j'y arrive. Je pense qu'en tout cas, les poèmes me servent aussi à ça. Ça veut dire que je suis dans cette, comme tout le monde, pris par les inquiétudes, l'impression que les choses résistent, mais le fait de les formuler en poème, de formuler ces émotions, aussi variées qu'elles soient, aussi même contradictoires parfois qu'elles soient, dans un poème, me permet d'avoir un moment où je fais quelque chose des émotions et du coup ça chante un peu, et faire chanter son inquiétude, c'est une façon d'y échapper, de l'alléger.
La poésie, en général, ça devrait apprendre à lire, mais comme l'enseignement est une catastrophe, naturellement, la poésie, on ne devrait pas l'enseigner. Il ne devrait pas y avoir un seul poème dans les bouquins d'éducation, parce que c'est très nocif, parce que ça fait croire que la poésie est un luxe et que Baudelaire est un poète, donc si c'est un poète, c'est pas un homme comme les autres, et si c'est pas un homme comme les autres, alors il est investi d'un pouvoir extraordinaire. Donc ça veut dire que le poète devient quelqu'un d'élu. Uh-huh. Alors si le poète est élu, il n'a plus aucun intérêt, parce que si c'est pas la peine. Si on est élu, on est coincé dans notre élection, c'est pas amusant ça. Moi je crois que tout le monde a la poésie dans la peau, c'est le fait d'exister qui est la poésie. Alors. Chacun, le fait d'écrire n'est pas pour moi, le fait d'écrire des vers n'est pas pour moi signe de poésie, attention.
L'homme qui vous aide le plus fort à vivre et à écrire, c'est Georges Perros en 1971 dans le documentaire Une vie ordinaire au micro de Paul-André Picton. Perros, auquel vous rendez hommage dans l'option légère, Victor Pouchet.
Je dois le terme roman-poème à Georges Perros et à son livre Une vie ordinaire qui paraît en 1967. Et en fait, je me suis aperçu après que cette expression roman-poème n'était pas de lui, mais de son éditeur, et qu'elle l'agaçait un peu. Mais moi, je la reprends et je l'assume et je suis content. Et en fait, c'est quelqu'un pour moi qui réussit à saisir avec les octosyllabes les bouleversements de la vie et avec une forme de la fois d'intelligence, d'intransigeance et de douceur. Et c'est à la fois un modèle sans doute d'écriture, mais aussi un modèle d'existence pour moi, Perros. C'est quelqu'un qui a fait des choix dans sa vie, qui a décidé de quitter Paris, de quitter sa vie d'acteur, de s'installer à Douarnenez, de se consacrer à la littérature véritablement.
Vous avez rencontré son fils à Douarnenez ?
Ouais, je suis allé à Douarnenez et j'ai rencontré son fils. Je suis allé au cimetière, j'ai pris un petit caillou sur la tombe de Perros et je lui ai dit quelques mots sur cette tombe. Et ouais, c'était un moment important que j'ai recueilli du coup dont j'ai fait un poème.
Dans l'option légère, justement, Perros relate le proverbe breton qui dit que la poésie est plus forte que les trois choses les plus fortes, le mal, le feu et la tempête. Vous le pensez, que ce sont les trois choses les plus fortes ?
Je crois que je pourrais vraiment reprendre mot pour mot ce proverbe et ce vers de Perros, et aussi sur cette puissance de la poésie, sur on est au cœur de la tempête. Je pense très souvent quand j'écris de la poésie ou quand j'en lis aux chants de marins. Les chants de marins, c'est des chants qui racontent les histoires terribles de noyades, de naufrages, de campagnes de pêche infructueuses, de femmes qui attendent leur marin et leur marin ne rentre pas. Et pourtant, on les chante avec une forme de joie et une joie qui sert peut-être à conjurer justement le mal, le feu et la tempête. Et donc, alors moi, je ne pars pas dans des campagnes de pêche dans le Grand Nord et je ne crains pas le naufrage, mais il m'arrive des choses qui sont peut-être de l'ordre de micro-naufrage ou de micro-tempête, et les raconter en poème me permet de les dépasser.
Les écrivains que vous appréciez, Victor Pouchet, ils ont aussi cette grande légèreté dans la façon de traiter les choses, mais cette amertume un peu douce. La thèse abandonnée, c'était sur Stendhal et ses héritiers.
Oui.
Donc lui, c'est la légèreté absolue, c'est l'Italie. Et puis il y a Frédéric Berthet, un dandy doux amer.
Frédéric Berthet est, je pense, un des écrivains qui m'a permis d'écrire, qui m'a montré notamment avec son roman Daimler s'en va que en suivant ses obsessions et en suivant et sa pente mélancolique et sa pente la plus légère, ça pouvait donner quelque chose. Et donc il m'a vraiment très fortement nourri dans ce chemin, comme vous dites, de crête entre l'inquiétude la plus profonde et la légèreté la plus grande.
Ouais, c'était un vrai désespéré, mais très drôle. Votre héros, Victor Pouchet, malgré sa recherche de légèreté, a des buts élevés, profonds, un peu graves. C'est ranger le monde et sa vie, alors qu'il semble assez désordonné. Et puis il est en retard surtout, comme il le dit. Et le narrateur de Pourquoi les oiseaux meurent tentait déjà de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est quoi cette obsession que vous avez pour l'ordre et le rangement ?
Elle est tout à fait reliée, en effet, à cette impression de désordre et que la vie est chaotique, presque dans tous les champs, le champ intérieur, la relation avec les autres, la relation avec le monde, les relations politiques, c'est vraiment le chaos et la norme, enfin, on baigne dans le chaos et que, du coup, on s'invente tous des façons de résister à ce chaos. Je pense que, certains, font la vaisselle de façon obsessionnelle, rangent leur appartement, collectionnent les pins, courent, des kilomètres autour de chez eux parce que ça met de l'ordre.
L'impression de contrôle.
Ouais, je pense que c'est tenter de contrôler, de trouver une façon ou de contrôler ou de traverser le chaos.
Et vous avez des rituels en dehors de la poésie ?
Je pense que j'écoute énormément de musique et de chansons, et que ça c'est aussi une façon de rythmer et de tranquilliser le chaos, de l'apaiser. Sinon je répète des mots en boucle, je m'invente des poèmes, j'en récite beaucoup dans ma tête. Tout ça me permet d'avoir l'impression que les choses sont plus en ordre. Le philosophe Hegel disait qu'une des façons de soigner les malades mentaux était de les mettre sur une balançoire et de les faire se balancer. Alors depuis, la psychiatrie a un peu évolué dans ses méthodes de soins.
Et ça a l'air mieux quand même.
Disons que c'est un peu plus doux que d'autres méthodes psychiatriques. Et je crois vraiment, on s'en rend compte. On balance un enfant, on se balance. Je pense que le fait que les soldats marchent au pas, c'est aussi ça se rapporte aussi à ce besoin général d'ordonner le monde.
Victor Pouchet, L'option légère, c'est aussi un roman-poème d'amour. Vous en parliez déjà dans La Grande Aventure. Amour et rupture.
Oui.
Et manque de l'être aimé.
Oui.
Espérance qu'il revienne.
Oui.
Effort pour qu'il revienne. Mais toujours ce retard, pas sûr d'être là au bon moment.
Ouais, un décalage. Le roman raconte l'histoire de quelqu'un qui tente de retrouver la femme qu'il aime en lui écrivant des poèmes. Avec cette impression, en effet, d'être en retard, de devoir recoller des morceaux qui sont épars. Et maintenant, voilà que j'ai dans la tête la chanson de Claude François, et donc
ça s'en va et ça revient.
Exactement.
Bah, évidemment.
Voilà, on est piégé par son propre karaoké
intérieur.
Alors, je sais
comment en sortir. Ouais. Est-ce que vous accepteriez de lire la première page de votre roman-poème ?
Avec plaisir. Dans la rue des grandes fatigues, je marche en faisant semblant de très bien savoir où je vais pour ressembler aux autres passants. Je pourrais révéler que c'est par politesse ou bien alors une sorte de performance. Les autres aussi, si ça se trouve, n'en savent rien et il faudrait les poursuivre pour vérifier. Ils avancent tous vers la source de quelque chose, à mon avis, au centre, un piège ou un trésor.
Est-ce que vous vous montrez comme vous êtes ?
Maintenant ?
En général, dans la vie ?
J'essaie de m'approcher le plus possible de ça, mais je pense que j'ai été un bon élève. Et donc pendant longtemps j'ai tenté de correspondre à ce qu'on attendait de moi, et j'ai l'impression d'aujourd'hui travailler à désapprendre ça et à me montrer le plus possible dans cet état naturel.
Thank you.
Big Bassi, le morceau Bondi.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Victor Pouchet, on continue d'évoquer votre roman-poème L'Option légère, l'histoire d'un homme qui tente de survivre dans la grande ville. Il essaie avec des poèmes de ranger le monde ou bien de faire quelque chose comme une révolution. Il veut aussi écrire le poème définitif qui invite à tout arrêter, ne plus jamais écrire, ne plus jamais regarder d'écran, ne plus échanger d'image. Et là, le lecteur s'interroge. Quête d'absolu qui ne pourra jamais être autrement achevée que dans l'illumination ou la mort.
Sans
vouloir vous décourager.
une ambition beaucoup trop grande, et c'est pour ça que je peux la nommer, parce que je sais que j'attendrai jamais, je réussirai jamais à écrire le poème définitif, et même un poème dont je suis très content, bah, il note un instant et il faut en écrire d'autres pour noter les autres émotions qui arrivent. Et mais en même temps, je continue à me dire, là je vais écrire quelque chose qui va révolutionner ma vie intérieure, le monde, et je suis aussi sans doute très content de pas réussir à le faire.
Mais cette quête de transcendance, vous y accédez parfois par la musique que vous écoutez et par la poésie, ou il y a d'autres voies? Pour s'élever un peu vers cet idéal qui, certes, est impossible, mais on peut s'en approcher.
Bah, vraiment, là où j'ai l'impression de pouvoir agir, c'est avec l'écriture. Donc ça peut être des poèmes, mais ça peut aussi être raconter des histoires et tenter de transformer ce qui nous arrive en une forme je pense souvent à l'exemple de mon neveu Noé, qui a 5 ans et il s'apprêtait à quitter la Corse où il était en vacances. Et il était sur le quai, il s'apprêtait à prendre un ferry. Et il a dit à sa mère, je crois que je vais avoir une émotion. Et je trouve ça super, parce qu'il savait pas encore comment nommer cette émotion, il avait pas les mots pour la formuler. Et je crois que la poésie, l'écriture plus largement, sert à nommer des émotions, comme un peu un sismographe aussi peut les enregistrer. Et ça, c'est en fait une ambition à la fois toute petite, mais immense. Quelque chose de très précieux dans réussir à saisir ce petit rien qui nous traverse. Et donc c'est à la fois transcendant, mais aussi très immanent.
Manhã tão bonita, manhã na vida, uma nova canção.
Dans l'option légère, il y a des petites vignettes narratives en italique. Il y a aussi les bruits de fond de la vie réelle. Et parfois, il y a des chansons qui passent à la radio comme Mania de Carnaval de João Gilberto, dont vous citez un passage. Il y a beaucoup de musique, il y a de la danse. C'est bien cette version ?
Ouais, c'est cette version.
Ah, super. Et à un moment, le narrateur exécute une danse balkanique ancestrale dans sa cuisine en faisant griller de la brioche. Qu'est-ce que c'est qu'une danse balkanique ancestrale ? Vous en connaissez ?
Non, je pense que c'est l'idée d'une danse balkanique ancestrale. Malheureusement, je n'ai pas pratiqué la danse balkanique.
Comme l'extrême ongan.
Non, ouais, j'ai. Ouais,
ça sonnait bien.
Ça sonne bien. Et puis, c'est une sorte d'idéal de Balkan que je pourrais reproduire ici, mais comme on a la radio, ça ne rendrait pas grand-chose. Mais il y a. Ouais, c'est une danse énergique. C'est vraiment le matin balkanique.
Le roi Renaud de guerre revient portant ses tripes dans ses mains. Sa mère est à la tour en haut qui voit venir son fils Renaud.
Yves Montand, le roi Renaud de guerre revient. Ça aussi c'est dans votre livre.
Ouais, c'est dans mon livre, j'écoute beaucoup de chansons anciennes. J'ai hésité à vous proposer parmi les choix musicaux des chansons comme ça, mais j'avais peur que les gens, en épluchant leurs carottes ou en dînant, changent de scène en se disant c'est quel enfer, on va me chanter des chansons moyenâgeuses. Moi, c'est des chansons qui me bouleversent parce que elles racontent souvent des récits là aussi fâcheux. Là, c'est le roi Renaud revient et il est en piteux état, et en même temps il y a une poésie, vraiment une forme de simplicité, et ça réunit un peu deux choses que j'aime qui sont le roman d'aventure, le roman de chevalerie et la poésie et la chanson.
Victor Pouchet, partagez-vous les aversions du narrateur qui, bien que romantique, peut se montrer très critique? Il a une aversion prononcée pour les shorts, ne supporte pas les portes de placard et le polystyrène le fait tressaillir d'angoisse pure.
Je pense que je peux me cacher sous une table si quelqu'un manipule du polystyrène. C'est une c'est ma phobie. Enfin, c'est une de mes phobies. Je ne passe pas non plus sous les échafaudages. Je déteste qu'une porte soit ouverte, porte de placard, de tiroir, de chambre. Et donc voilà, j'essaie d'organiser les choses, mais Vous aimez bien le polystyrène, vous ?
Ah oui ?
Il y a des gens qui aiment le polystyrène.
Oui, et je n'ai rien contre les shorts, je dois vous l'avouer, en direct.
Il m'arrive en fait de porter des shorts, mais j'ai beaucoup de mal à porter des shorts en ville.
Ah oui.
J'ai l'impression que...
Dans des stations balnéaires uniquement.
Voilà, exactement. Je réserve le short à la Corse.
Très bien. Il y a une question que je me pose, et je ne dévoile pas pourquoi aux auditeurs qui le découvriront en lisant votre livre, mais avez-vous vu un marabout ?
Non.
D'accord. Vous avez envie ?
J'ai envie et j'ai peur à la fois. J'aime beaucoup l'idée du marabout. J'ai écouté beaucoup d'émissions, de documentaires sur les marabouts, plus largement sur les médiums, sur les magnétiseurs, qui étaient l'objet aussi de mon précédent roman. Et je collectionne les tickets de marabout, mais c'est de ça dont il ne faut pas que je parle. Si ?
Il y a quelque chose dont vous ne devez pas parler ?
Non, vous disiez qu'il ne fallait pas que je réponde tout de suite à une question. Non, je me suis...
Ah non, pas trop en dire sur le livre, mais vous pouvez dire ce que vous voulez.
Non, mais en fait, je collectionne les tickets de marabout, donc j'ai plus de 300 tickets de marabout que je récolte à la station Barbès depuis des années.
Ah oui, c'est impressionnant, plus de 300.
Ouais.
Il y a des savoirs insolites, évidemment, dans votre livre. Et vous vous demandez si Justin Bridoux, enfin le narrateur, évidemment, pas vous, si Justin Bridoux a vraiment existé, vous avez vérifié ?
Je suis allé vérifier, ouais.
Alors ?
Et malheureusement, non, c'est une marque et il n'y a pas de véritable Justin Bridoux. Je suis désolé, là, peut-être que je vais décevoir un grand nombre de fans de saucissons.
Je pense que plus personne n'écoute l'émission, là.
Ah ouais.
Bon, vous pouvez vous rattraper avec l'étymologie du mot spatule.
Je ne m'en souviens pas. J'ai noté ça, mais ça fait pas sérieux, là.
Se faire shanghaïer.
Se faire shanghaïer, par contre, ça je peux vous le dire, c'est les marins qui un bateau allait embarquer parfois ils avaient du mal à nourrir leur équipage de marins parce que les gens voulaient pas aller dans des cales maltraitées et crever la dalle, et du coup se faire shanghaïer, c'est on enivrait les marins sur les barres des quais, et comme ça on les raflait un peu pour les emmener à bord pour partir pour des campagnes de pêche ou pour des campagnes militaires.
J'ai cherché grâce à vous la taille des plus grands calamars géants connus. C'est 13 mètres pour les femelles et 10 pour les mâles.
Pas mal.
Ouais. Alors vous dites aussi, Victor Pouchet, des mots imaginaires, des séries de syllabes dont le sens vous... enfin, l'absence de sens vous apaise, comme Ipapupapéis et Wapayepa.
Wapasiepas.
Ah, pardon. Wapasiepas.
On prononce le S.
Excusez-moi, je n'avais pas lu encore le dictionnaire de cette langue. Est-ce que vous pouvez en créer un autre là, maintenant ?
Arbribus.
Arbribus.
Un mélange de arbre et de abribus. Je sais pas quoi faire de ça.
Non, bah rien, mais c'est pour ça qu'on est là.
Ok, très bien.
Bah oui. Alors, vos maîtres, ce sont Ulysse et Lancelot, Verlaine, Perros, on en a parlé tout à l'heure, Villon, Souchon tous les jours, dit le narrateur, et Bogart, ça tombe bien puisque votre choix musical, c'est Mathieu Bogart, Once Again. Alors, vous dites qu'il est présent dans votre tête en quasi-permanence.
Il y a des moments où quand même il s'absente, mais c'est un des êtres humains que j'admire le plus au monde. En 2006, je lui ai fait signer, dédicacer ma carte vitale à la Fnac Bellecour de Lyon. Et je, presque, enfin, très souvent, il y a des chansons de Bogart en tête. Il y a une façon, une forme de simplicité et de grande sophistication dans ses chansons, de drôlerie aussi. Et ouais, il me touche énormément.
Et bien justement, on écoute Once Again.
Again in your life, take a plane, found your life anywhere, any kind. We don't care, you decide, but don't be late. It won't wait for you. Just get into it. Ooh. Once again, it is time, take a train, any line. Leave your bag, it's too heavy. So big, make it empty, but don't be late. It won't wait for you. Just get into it. Just get into because you really want to. Just get into because you really want.
C'est Mathieu Bogart que vous entendez, le morceau Once Again dans Grand Canal sur France Inter. Je suis toujours avec Victor Pouchet, qui est toujours aussi sympathique et à qui j'ai demandé une découverte pour vous, chers auditeurs. Il y en a deux. Le fait que la comptine Amstramgram, Piki-Piki, Collégram proviennent d'un rite chamanique scandinave médiéval. Bah, je vous laisse commencer par là.
Oui, j'ai découvert que cette comptine que tout le monde connaît, qu'on a tous utilisée, notamment pour savoir qui allait être le chat dans
oui,
la cour de l'école.
Est-ce que c'était souvent vous, le chat ?
Bah non, j'ai pas été plus le chat qu'un autre, mais j'ai bien aimé jouer à chat. Et donc j'ai beaucoup utilisé la comptine Amstramgram. Et en fait, je me suis rendu compte, en me renseignant sur cette comptine, que d'une part, c'est une comptine qui existait dans presque toutes les langues et depuis très longtemps. Et en fait, j'ai lu les recherches d'un historien qui s'appelle Jean-Pierre Poli et qui a réussi à prouver que cette comptine, en fait, on en retrouvait des traces dans un rite chamanique scandinave médiéval. Et en fait, ça servait à accompagner les morts lors de rites funéraires. Et je trouve ça en fait bouleversant, l'idée que des gamins dans les cours d'école perpétuent d'une certaine façon ce rite chamanique très ancien dont évidemment ils ne comprennent pas le sens puisqu'il n'y a plus de sens aujourd'hui. aujourd'hui, Amstragram, ça ne veut rien dire. Mais pourquoi est-ce que ça continue à durer à travers le temps? Sans doute parce qu'il y a une sorte de puissance sonore et peut-être l'idée que quelque chose qui a un sens derrière, qui a une forme de mystère, un peu comme le mot abracadabra ou comme les paroles de chansons qu'on ne comprend pas. Je sais que quand j'étais petit, moi, la première chose que j'écrivais, c'était des paroles de chansons que je recopiais parce que je ne les comprenais pas. Donc j'écoutais des chansons de Bobby Lapointe, de MC Solar ou de Renaud.
Ah oui, Bobby Lapointe, c'était pas évident à retranscrire.
Ouais, Igor Agar, etc.
Tic-tac-tic-tac.
Voilà. Et donc il faut les écrire parce que on a quand même quelque chose comme l'idée d'un sens. On sait qu'il y a quelque chose qui résiste. Et je crois que la poésie c'est souvent ça. On a l'idée d'un sens, mais elle nous porte aussi parce que on est pris uniquement par sa musique et par son rythme.
L'autre découverte que vous avez choisie pour l'émission, c'est le livre « Beauté de l'éphémère, apologie des bulles de savon » de Pierre Zawi.
C'est un essai de philosophie, mais qui part de cet objet très léger, mais en fait très contradictoire, qu'est la bulle de savon. Et Pierre Zawi montre que c'est un objet qui a longtemps été considéré comme un symbole de la vanité humaine. Donc l'homme est une bulle et il va éclater comme les bulles de savon, ce n'est rien, c'est le vide. Et en même temps, en fait, ça, évidemment, ça a changé. Et on peut considérer, les philosophes se sont intéressés autrement que sous cet angle à la bulle de savon, et notamment à une façon qu'a la bulle de savon d'incarner une sorte de à la fois de mort, mais de mort très légère. Le gamin qui souffle dans sa paille et qui fabrique des bulles de savon, évidemment il ne pense pas à ça, il a une sorte de jeu très pauvre, très gratuit, mais quand même il y a une expérience où on fait disparaître des mondes à la fois parfaits et tout petits. C'est presque rien de bulles de savon, mais en fait c'est quand même une forme d'image de la perfection, et donc comme le dit le titre, une forme de beauté de l'éphémère.
Oui, c'est très beau. Ça donne très envie de le lire.
Ben je vous le conseille.
Eh bien, j'accepte le conseil.
Formidable.
Est-ce que, en parlant de lire, vous auriez la gentillesse, Victor Pouchet, de nous lire un extrait de l'Option légère, de nouveau, qui soulève ce qui paraît un vrai luxe aujourd'hui?
Si je ne réponds pas à temps à vos messages, mes amis, je vous prie de ne pas m'en vouloir. C'est parce que je suis très absent à moi-même. Je reviendrai plus tard quand j'aurai fait les choses qu'il fallait que je fasse et que j'avais promises. Parmi elles, je devais notamment vous répondre. Mais en fait, vous voyez, il se trouve que je suis absent à moi-même. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit.
On ne peut plus aujourd'hui s'absenter. Il faut toujours répondre à tout le monde, aux messages, aux sollicitations, non?
Vous êtes trop sollicité.
Non, mais je parlais évidemment de gens que je connais.
Bah, c'est vrai que sans doute que la différence avec les générations précédentes, c'est cet outil à la fois fantastique et qui est une immense laisse qu'on a dans notre poche, qui est le téléphone portable.
Ah oui, ça concerne tout le monde. J'avais lu un article d'un père de famille qui n'en pouvait plus et qui avait écrit une lettre à sa famille en disant « Je ne veux plus jamais être dans un groupe WhatsApp, je ne vous répondrai plus jamais, je ne veux plus liker des choses, jamais. »
Bah voilà, c'est le courage dont on manque tous, et cet homme a fait ce geste qu'on ne réussit pas à faire, et on le salue.
Ah oui. Y a des questions sur Internet qui intéressent le narrateur, comme savoir si en comptant tout dans le monde, il y a plus de portes ou de roues. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je n'ai pas tout à fait la réponse, mais je suis tombé sur un blog canadien qui faisait des hypothèses. Donc vraiment, on peut compter. Évidemment, c'est des approximations, savoir s'il y a le plus de portes ou de roues. Il faut tout inclure, parce qu'il y a évidemment les portes de placard, les portes de fenêtres, etc. Et puis les roues, il faut compter aussi tous les jouets, notamment les Legos. Et en fait, c'est les Legos apparemment qui feraient basculer le décompte du côté des roues, parce qu'il y a énormément apparemment de Lego qui ont été construits, notamment de Lego qui comportent des roues. Donc voilà, je sais pas quoi faire de cette information, mais je sais pas si le monde est plus en ordre s'il y a plus de roues que de portes.
Vous passez beaucoup de temps sur Internet ?
Énormément.
Vous regardez des vidéos de chiens mignons comme le fait le narrateur ?
Énormément. Je regarde des vidéos de chiens mignons, puis aussi en fait m'arrive, parce que maintenant on regarde des vidéos qu'on n'a pas forcément choisi de regarder, c'est la puissance satanique des algorithmes, et donc j'ai aussi des vidéos de chinois qui font du bricolage et qui me donnent des conseils de bricolage, alors même que je ne bricole presque pas. Mais je sais maintenant comment étanchéifier des fenêtres avec une sorte de scotch magique, etc. Et donc j'ai ça, et beaucoup de chiens qui font des choses ou simplement qui se contentent d'être mignons.
Oui, c'est ce à quoi ils excellent.
Excellent.
Alors avec votre téléphone, vous faites autre chose. Il paraît que vous enregistrez les gens dans la rue. ou les conversations à la table d'à côté dans le train? Quand ça vous interpelle, évidemment.
Oui, je prends des notes, mais là, j'ai l'impression que je vais être ensuite dénoncé comme dans ce geste de...
Non.
À la fois, j'enregistre pas mal de sons qui me marquent, de conversations. Je note aussi à la main. Et je prends aussi beaucoup de photos, je fais aussi beaucoup de films. En fait, j'ai l'impression que comme les choses m'échappent, j'ai pas une excellente mémoire, donc j'ai besoin d'en garder des traces. Et l'enregistrement est un de ces outils.
Alors justement, en parlant de films, Victor Pouchet, vous avez fait Ciné-Poème, lecture et projection de l'option légère à la Maison de la Poésie le 28 mars dernier. Et il y avait 11 ultra-courts-métrages, dérisoires et grandioses. Et alors j'ai quand même noté quelques noms de scénaristes comme Mikhail Arkadinov, Edmondo Alighieri, Lucio Vampa et Anne J. Sulliver. Et ils ont en commun, ils semblent avoir en commun le fait de ne pas exister.
Je m'entoure pour faire ces films que je fabrique entièrement tout seul, avec mon téléphone, en faisant le montage, la voix off, la musique, etc. D'une grande équipe imaginaire de cinéma, et donc j'ai l'impression qu'on est très nombreux. Et donc il y a en effet des scénaristes imaginaires, mais aussi quelqu'un à l'image, au montage. Et donc je fais des génériques très longs pour des films que je suis seul à faire, et j'ai l'impression du coup qu'on est plusieurs dans ma tête et que ça fait des films, des grands films de cinéma, des grands petits films de cinéma.
62 rescapés au départ de la 15e étape, Toulon-Menton. La chaleur est tropicale, on boit et on fait comme les estivants, on prend un bain de mer.
Alors là, c'est une archive du Tour de France et vous me voyez venir ou pas, Victor Pouchet?
Oui.
Alors, sur quoi je vais vous interroger là?
Je pense que vous allez m'interroger sur le Tour du Monde de France de Bretagne. Qui est cette grande aventure que j'ai initiée avec mes deux meilleurs amis, Antoine Gaget et Gilles Merveilleux, que j'ai rencontré en 6e 4.
Ils existent ?
Ils existent complètement.
C'est Gilles Merveilleux pourrait être dans votre tête.
Bah ouais, mais en fait, il a eu la chance de bénéficier de ce nom formidable.
Ah oui.
Et je le connais depuis donc la 6e 4 exactement. C'est de mes plus lointains amis. Et on a décidé il y a 11 ans maintenant de faire un Tour de France à pied par étape. Et donc on a commencé à Brest cette marche et tous les ans on fait une étape et normalement d'après nos calculs, mais qui sont évidemment approximatifs, on aura fini de faire le Tour de France d'ici 2060.
Et quelle est la méthode appliquée?
On marche une semaine et on reprend exactement à l'endroit où on s'est arrêté et on parle sur le chemin, on dit des conneries, on se balade, on rencontre des gens, c'est pas du tout staccanoviste comme formule et le principe c'est de ne pas avoir à choisir le chemin, qui est aussi une grande tranquillité parce qu'on sait toujours que bah il faut avancer, on avance vers le sud et donc on suit le Tour de France jusqu'à ce qu'il soit accompli.
Vous avez une autre tocade, Victor Pouchet. Ce sont les musées étonnants du Royaume de France. Je vous cite. Et alors, il y a par exemple celui des phares à Belle-Île-en-Mer ou celui des outils à Troyes.
Oui, et récemment, j'ai visité le musée de la fraise de Plougastel, que je vous conseille. Le musée du loup aussi, qui est près de Morlaix.
Qu'est-ce qu'on voit au musée de la fraise de Plougastel?
On voit toute une des informations sur le moment où on a implanté la fraise à Plougastel. C'est un agronome anglais qui a apporté la fraise à Plougastel. Et donc, on a des grands panneaux sur les paysans qui se sont mis à cultiver les fraises. On a des intérieurs de paysans de Plougastel. C'est un très beau musée.
Et quel est le prochain sur votre liste?
Le prochain, c'est le musée des nourrices et de l'assistance publique, qui est dans le Morvan, où je vais aller mercredi matin.
Ah oui?
Oui, j'ai prévu ça, parce que je prends la route vers le sud, et dès que je fais un déplacement, maintenant, je m'arrange pour passer par un musée étonnant. Et le musée de la station-service était fermé, et du coup, j'ai décidé d'aller au musée de la nourrice et de l'assistance publique.
Merci beaucoup, Victor Pouchet.
Avec plaisir, merci à vous.
Votre roman-poème L'Option légère est paru chez Gallimard et votre ciné-poème Lecture et projection, qui a eu lieu le 28 mars dernier, est à visionner sur la chaîne YouTube de la Maison de la Poésie. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Benjamin Wagon. Et dans un instant, quelle chance, vous allez retrouver Very Good Trip par Mishka Assayas.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
France Inter,
première radio de France.
Il est 21h.